degrés.
L'émission 100% rouge et noir, c'est tous les mercredis à 19h sur 100%.
Avec Debar Automobile, vendeur multimarque depuis 30 ans, à retrouver sur debarautomobile.com.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans 100% rouge et noir. Autour de la table ce soir pour débattre, le demi de mêlée de l'AS Bressol, Maxime Prat, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Notre journaliste Gilles Gauthier, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Et notre invité ce soir, c'est le demi d'ouverture internationale David Ocagne, bonsoir.
Bonsoir.
Stadiste, une saison, entre autres.
Au sommaire de ce 100% rouge et noir, Gilles.
Le journal du stade, débat 100%, 10 points d'avance pour le Stade Toulousain entre le Stade Toulousain et le 3ème du top 14. Les demi-finales directes peuvent-elles encore échapper au stade? Et puis Thomas Ramos, à son aise face au Pays de Galles, le joueur toulousain est-il meilleur en 10 plutôt qu'en 15? David Ocagne nous donnera son avis d'expert. Et puis enfin, l'interview de notre invité David Ocagne, on va replonger dans les souvenirs de sa longue carrière.
100% rouge et noir, le journal du stade.
Semaine de vacances pour l'effectif rouge et noir.
Et les hommes d'Hugo Mola reprendront l'entraînement lundi prochain. Pour eux, le top 14 reprendra le dimanche de cette même semaine avec un déplacement à Bordeaux.
Première en bleu pour Manny Meafou.
Une première réussie pour le deuxième ligne toulousain. Il a énormément apporté physiquement. Il a aussi avoué avoir répété la Marseillaise sur Spotify.
Antoine Dupont a pris du bon temps à Los Angeles.
Le demi de mêlée est resté à Los Angeles donc après le tournoi gagné avec l'équipe de France à 7. Il était notamment en compagnie d'Oli, de Big Flo et Oli, et de l'influenceuse très connue Léna Situation.
100% rouge et noir, le débat 100%.
Malgré sa défaite à Perpignan, le Stade toulousain reste co-leader du top 14 avec le Stade français. Les deux équipes comptent 10 points d'avance sur le 3ème, La Rochelle. À 8 journées de la fin, la qualif directe pour les demi-finales peut-elle encore échapper aux joueurs d'Hugo Mola?
David Ocagne, est-ce que c'est possible ça?
Bonsoir.
Bonsoir.
Non, je pense que c'est pas possible. Ils ont tellement un effectif et un jeu qu'ils connaissent très bien que oui, je pense qu'ils sont déjà presque qualifiés.
Sachant que sur les 8 journées donc qu'il reste à jouer, il y a des déplacements à Bordeaux, à Toulon, à Montpellier et à Lyon, et les réceptions de Pau, du Racing, du Stade français et de La Rochelle. Quand même des grosses équipes.
Ouais, non mais franchement, ce qu'ont fait les Toulousains, bon, hormis à Perpignan, mais pendant les doublons, c'est exceptionnel. Ils ont renforcé leur avance, ils ont marqué les esprits en allant gagner à Clermont, en allant gagner au Racing, en mettant un bonus offensif contre Bayonne, contre Castres, ils ont pris un max de points pendant cette période, alors qu'on se rappelle que l'année dernière, ça a été une période compliquée pour eux. Sortir avec 10 points d'avance sur le 3ème, c'est-à-dire t'éviter un barrage qui est toujours un peu piège, hein. On l'a déjà connu d'ailleurs à Toulouse, ce fameux barrage piège. Donc je pense que tous les voyants sont ouverts pour eux, ils vont se qualifier dans les deux premiers, alors premier, second, je ne sais pas, mais ça c'est pas très important au final, et ils vont s'éviter un barrage. Et quand on voit en plus Antoine Dupont qui s'est au final, même s'il a fait du 7, je pense qu'il va revenir en pleine bourre aussi pour la fin de saison, je vois pas au final ce qui peut arrêter le Stade Toulousain sur la fin de saison. Je pense qu'ils sont jamais arrivés aussi bien presque à cette période,
ouais.
Ce qui est paradoxal avec les fameux doublons, etc. Donc non, aujourd'hui je les vois vraiment qualifié dans les deux sans problème, quoi.
Ouais, d'autant plus qu'il y a le retour donc de Dupont, effectivement, de Ntamack aussi fin mars en top 14. David Ocagne, elle te bluffe cette nouvelle génération du stade là, les Gourgues, Coste, Castro Ferreira qui sont déjà à un niveau,
oui,
assez...
Après on les connaît depuis quelques temps déjà, avec l'équipe de France des moins de 20 ans. Mais c'est vrai que ils ont peur de rien, on a l'impression. Ouais. Et clairement, j'ai pas vu le match, mais on m'a dit que du bien, qu'ils relançaient de leur but. Et...
Ouais.
Voilà, ils prennent vraiment des initiatives et c'est vraiment l'ADN du club, donc c'est super de les voir comme ça.
Et à plus long terme, le titre, tu penses que ça va se jouer entre qui? Stade, La Rochelle, Stade français?
Non, je pense que les deux stades...
Ah ouais Rochelet... Tu vois pas La Rochelle finir fort?
Si, La Rochelle, ah ouais, voilà. Le Stade Rochelet. Ouais.
Ah oui, je pensais que tu parlais du Stade français
non,
aussi.
Non.
Ok.
Ouais, je pense que sur la fin, les deux grosses équipes du rugby français vont être présentes.
Mais La Rochelle revient au bon moment, quoi.
Oui, je pense.
Ils sont... Eux, par contre, les doublons, ça a été un petit peu plus compliqué.
Ouais.
Parce qu'ils n'ont pas la profondeur d'équipe du stade.
C'est clair.
Ils
ont moins de contrats pro, à mon avis. Et, ouais. Et au niveau des jeunes, ils sont moins forts. Donc,
rappelez-vous, la saison dernière, c'était déjà le cas pour eux. Ils avaient démarré très moyennement. On se posait même des questions sur Ogara. Et ils finissent très fort. Coupe d'Europe, top 14.
Ouais, puis surtout que là, eux, on parle des internationaux, ils vont avoir des joueurs en forme également. Au bon moment, Aldrit qui s'est bien reposé, qui revient bien là depuis maintenant le tournoi de destination. Donc ils vont être. Oui, je vois pas le Stade français, même s'ils sont bien classés, je vois pas le Stade français sur un match éliminer une des deux équipes.
Et puis...
Fin de ce débat, messieurs, on va maintenant prendre le pouls des supporters.
100% rouge et noir.
Dans la fan zone, on va voir ce que pensent les supporters du stade ce soir. C'est Charlotte qui débriefe la défaite du stade à Perpignan.
On aurait pu repartir avec un point de bonus défensif. On l'aurait mérité, je pense. Mais force est de constater que l'équipe de Perpignan a bien joué, était complètement remontée devant son public. En tout cas, avec cette jeunesse, on peut voir que l'équipe du Stade a un bel avenir. Et on sait que quand les internationaux ne seront pas là, les jeunes feront le boulot. Et hâte que toute l'équipe revienne au complet quand même, pour qu'on soit encore plus compétitif.
L'émission 100% Rouge et Noir, c'est tous les mercredis à 19h sur 100%.
Avec Debar Automobile, vendeur multimarque depuis 30 ans, à retrouver sur debarautomobile.com.
Vous êtes dans 100% Rouge et Noir, on va parler maintenant du cas de Thomas Ramos.
100% Rouge et Noir, l'avis de l'expert.
Auteur de 20 points avec un 8 sur 9 face au Perche, Thomas Ramos a brillé face au Pays de Galles dimanche dernier. Il était aligné au poste d'ouvreur. Alors question, Thomas Ramos est-il finalement meilleur à l'ouverture qu'à l'arrière?
Un spécialiste des trois quarts, David Ocagne, entraîneur en plus.
Je trouve que c'est quelqu'un de très collectif en fait. Ah. Et par rapport à ça, son poste d'arrière, qui est plus un poste individuel où il y a des espaces, je trouve qu'il apporte finalement peut-être moins à une équipe. Et après, il est tellement précieux au pied, donc c'est important qu'il soit sur le prêt.
Ouais.
Mais non, j'ai bien aimé, franchement. J'ai bien aimé.
Et tu le verrais, tu le repositionnerais plus à long terme, plus en 10 qu'en 15, du coup?
Après, je trouve que le fait de jouer les deux postes et d'être quand même au niveau du jeu au pied très, très important, c'est pas trop gênant, sachant que Ntamack va revenir, que voilà,
ils ont King Horn aussi.
Voilà, il y a quand même de la concurrence. Mais c'est quelqu'un qui, pour moi, fait bien jouer l'équipe. Donc, c'est intéressant.
Maxime Pratt.
Moi, je pense que Thomas Ramos, c'est un joueur qui est en catégorie de jeunes lorsqu'il jouait en cadet et même après au Stade Toulousain. Il était formé 10, c'était un numéro 10. C'est en passant après à Colomiers qu'il a évolué au poste d'arrière. Et en fait, c'est les circonstances de concurrence puis d'effectifs qui ont fait qu'il a été installé au poste d'arrière au Stade Toulousain parce qu'il y avait Ntamack en 10, etc. Mais quand tu regardes ses qualités, ses vraies qualités, c'est-à-dire que c'est un super animateur, il a une très bonne technique individuelle, il a une bonne gestion des temps forts et des temps faibles, il a plus les qualités d'un 10 que d'un arrière parce que alors à l'arrière c'est pas alors sur les ballons hauts il est bon mais c'est pas exceptionnel, c'est pas un Julien ou c'est pas, pour moi je trouve que sur les ballons hauts au niveau international il est bon hein, mais c'est
il
pas
manque
du
peut-être
très,
un
très
peu de
niveau.
Taille à l'arrière,
il manque peut-être un peu de taille en vitesse, c'est pas le plus rapide non plus et je trouve qu'il a au final il a plus les qualités, on voit plus ressortir ses qualités lorsqu'il joue 10 que lorsqu'il joue 15, même si en 15 c'est très bon niveau, attention mais c'est on chipote, mais à choisir moi je trouve qu'il a plus les qualités d'un 10 que d'un 15, mais le souci c'est que quand il y aura Romain Ntamack, bon, lui par contre on le voit pas forcément à l'arrière, donc c'est pour ça qu'il est repositionné à l'arrière, mais moi aujourd'hui je trouve en tout cas pour lui individuellement meilleur en 10, plus de qualité d'un 10 que d'un 15.
Et avec le retour d'Ntamack, est-ce que vous pensez qu'au stade la question va se poser, c'est-à-dire Ntamack en 10 ok, mais à l'arrière est-ce qu'il va faire un... forcément King Horn
compliqué à gérer. Ça y a des matchs,
c'est un problème de riche ça.
Sortir King Horn qui a été vraiment excellent jusque là, qui bute aussi. Alors peut-être pas aussi bien que Ramos, même si Ramos, je sais pas ce que vous en pensez, mais le taux a baissé d'efficacité depuis la Coupe du Monde. Je sais pas si la transformation de Colby.
Ça s'est pas vu ce week-end en tout cas.
Non, mais avec le stade, les matchs précédents, oui. Est-ce que la transformation.
De toute façon, tous les internationaux ont quelques petits problèmes pour récupérer de la Coupe du Monde.
Hein. C'est un traumatisme.
Psychologiquement, je crois qu'ils ont été vachement affectés. Donc, oui, ça met un peu de temps. Mais,
Après, il faudra voir comment revient Romain Ntamack aussi. Quand tu reviens d'une blessure comme ça, il y en a qui reviennent très vite, d'autres qui vont mettre un peu plus de temps. Peut-être que Romain Ntamack, sur la phase finale, ça sera un joker sur le banc pour rentrer en 10, en 12, en fin de match, et que Ramos jouera 10 et King Gordon 15. Donc ça dépendra vraiment de la forme d'Ntamack. Après, quand les trois seront en forme, il y aura des choix à faire, c'est sûr.
Sachant que King Gordon est un 10 de formation, en fait. Il joue à l'arrière, alors peut-être pour dépanner, j'en sais rien, mais on nous a dit, Jérôme Casalvo nous a dit, c'est un 10 de formation qui bute aussi. Voilà. Mais je le vois, il est très grand pour lui. Alors lui, c'est l'inverse de Ramos, il est très grand pour un 10. Ça gêne pas, mais bon, voilà. Je le vois plus à l'arrière.
C'est avantageux pour un arrière.
Je le vois plus à l'arrière.
Oui, et puis il a le vrai profil 15. En écho, s'il joue 15.
Il va vite.
Il est performant.
Très bon sur les ballons.
Avec le stade, il a plus les profils d'un 15, en tout cas.
Et puis des belles courses chaloupées. Moi, j'aime bien, franchement.
Et tu vois,
je ne connaissais pas trop, mais.
Tu vois le staff toulousain mettre en concurrence Ramos-King Horn à l'arrière? Tu crois qu'il y aura match ou pas forcément?
Il y aura match, mais après.
Je ne les vois pas mettre Ramos sur le banc, mais pourquoi pas? Parce qu'après, il a le profil idéal de remplaçant aussi, 10-15.
Après, ça a toujours été le fait au Stade Toulousain d'avoir beaucoup de joueurs à des mêmes postes de temps en temps et qu'ils ont su toujours très bien gérer. Donc,
à voir, mais il y aura des choix, c'est clair.
Bon, Problème de riche.
Fin de ce débat, messieurs. C'est l'heure maintenant du CV de David Ocagne, notre invité.
100% rouge et noir, le CV de l'invité.
David, tu m'arrêtes si je me trompe. 51 ans, originaire de Vichy, où tu as débuté le rugby, puis tu as rejoint le PUC en 91. Ensuite, la section paloise de 96 à 2001, puis le Stade Toulousain, une saison, 2001-2002. Retour 2 ans à la section, puis Grenoble, Montpellier, et enfin une dernière saison à Pau, 2007-2008. Vainqueur de la Coupe de France en 97 avec la section, vainqueur du Challenge européen avec la section en 2000, 15 sélections avec l'équipe de France, Grand Chelem 97-98 avec la France, évidemment, ensuite entraîneur de Pau, de 2011 à 2016. Ensuite, de Béziers, actuellement de Montauban, où tu t'occupes notamment de la défense. Jusque-là, tout est bon.
Oui.
grande c'était carrière bon. De joueur et d'entraîneur. Quand tu te retournes, ton plus beau souvenir, le plus fort émotionnellement?
Le plus fort, le premier match du tournoi, quand tu es sélectionné, quoi.
Ouais.
La Marseillaise, etc., même si j'étais remplaçant.
Contre le Pays de Galles?
Oui.
Voilà, c'est ça.
Le 15 février 97.
Et après, tu es titulaire contre l'Écosse?
Oui, pour le Grand Chelem, ouais. Ouais, j'ai pas mal de chance, ouais.
Bah ouais. Et là, c'est quoi? C'est les grands frissons, c'est ouais.
Oh bah c'est un rêve de gamin qui se réalise. Toute la famille est là, puis ça se passe plutôt bien. Donc voilà quoi, des beaux moments. Ouais.
Au Parc des Princes à l'époque.
Ouais.
Est-ce qu'il y a un regret dans cette carrière?
J'ai pas été champion de France. J'ai jamais soulevé le bouclier. Ouais.
Ouais.
Donc ouais, un gros regret parce qu'on n'est pas passé loin souvent avec Pau ou l'année où j'étais à Toulouse, même si l'année a été compliquée. Ouais, ce moment-là, ouais.
Le joueur le plus fort à qui tu as joué?
Le joueur le plus fort, je dirais Castagnède.
Thomas Castagnède, ouais. Ouais, c'est pas mal.
Ouais. Ça savait tout faire.
Ouais, c'est ça.
Il allait vite, il était super technique, il claquait. Ouais.
C'est un joueur
un bon mec en plus.
Donc, c'est un joueur qui a été malheureusement souvent blessé. Sinon, ouais. Il aurait eu une carrière, je pense.
Oui, c'est un peu grâce à lui que j'étais international. Parce que moi, quand je suis international, il y avait quand même Penaud, Castagnède, Delegue. Enfin, il y avait du monde.
Il y avait du beau, ouais.
Ils étaient blessés, donc ça m'a permis de faire ma place.
L'entraîneur qui t'a le plus marqué? Ou l'éducateur?
Herrero.
Daniel Herrero
au PUC.
Au PUC, ouais.
Pendant 3 ans.
Il était, ouais, comme on l'entend dans les médias, la gouaille.
Pareil, ouais. Pareil, jusqu'à 5h du matin, dans les rues de Paris, rue de la Soif. Non, mais il était exceptionnel.
Il faisait quoi?
Pour un jeune qui monte et qui joue ses premiers matchs en première, c'était fantastique.
Avec le ruban rouge dans les cheveux,
toujours,
pareil.
Ouais.
Et il faisait quoi, avant 3/4 tout?
Non, il était manager.
Manager, ouais.
Il était déjà en avance sur son temps. C'était un prof de gym, donc... À la base, il savait anticiper, il savait s'adapter. Il était... Puis la gouaille, il te faisait monter au rideau en 2 secondes. C'était formidable.
L'anecdote que tu n'as jamais osé raconter? Est-ce qu'il y en a de souvenirs de troisième mi-temps, par exemple?
Il y a eu Cali qui avait mis une peau de banane dans les chaussures d'Olivier Merle avant France-Écosse.
Ah oui, ça me dit quelque chose,
le,
ça.
Le match pour le gain du tournoi.
Mais vous en rendez compte avant le début du match?
Ah oui, parce que Merluche voulait le tuer. Donc, c'était la course dans les vestiaires. Non, ouais, on avait bien rigolé. Ouais.
Il y a souvent Califano dans les anecdotes.
Ouais. Et sachant qu'Olivier Merle, pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'était un joueur de plus de 2 mètres, 120 kilos.
Ouais,
c'était le meilleur foot de l'époque.
Ouais. Hein. Ouais, qui était lanceur au départ et qui avait...
Lanceur de poids, ouais.
Ouais.
Effectivement.
100% rouge et noir. Le c'est vrai, c'est pas vrai.
Allez, 3 affirmations sur toi, David. Tu vas nous dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. David Ocagne, il aurait souhaité rester un peu plus au Stade Toulousain.
Oui, c'est vrai.
Alors, tu fais un an, c'est ça, au Stade?
Ouais, j'avais signé 2 ans. Et je me suis blessé toute la saison. Et j'avais un magasin, j'avais un commerce à Pau que gérait ma femme, Eden Park. Donc elle faisait les allers-retours. On s'est pas très bien organisé. Du coup, j'ai préféré rentrer sur Pau. Mais je regrette. Ouais. Avec le temps, je regrette.
David Ocagne, il va se maintenir cette saison avec l'USM?
Bah oui, bien sûr. Parce bien sûr, on va tout faire pour se maintenir.
Ouais, la période est un peu délicate, vous êtes avant-dernier, mais il reste 8 matchs.
Oui, mais je pense que le groupe a les capacités, on l'a prouvé l'an dernier. Donc on va faire ce qu'il faut pour se maintenir. Et puis c'est tellement un club attachant, je dirais, et qui mérite de rester en Pro D2, donc on va tout faire.
Dernière affirmation, David Ocagne, il va peut-être pas passer toute sa carrière professionnelle dans le rugby?
Non, ouais.
C'est quelque chose que tu... voilà.
Ben j'aime bien tout ce qui est restauration, et j'aimerais ouvrir un truc à côté de Béziers, ouais, je pense.
Ok, en préparation.
Un gîte avec un resto, et j'aime bien la convivialité, j'aime bien les gens, j'aime bien l'échange, j'aimerais faire ça, oui.
Bon, ben parfait, on viendra voir ça. Merci beaucoup, David Ocagne.
Merci à vous.
On s'est régalé. Les prochains rendez-vous rugby, c'est ça que vous voulez savoir?
Ben oui, j'ai même pas le droit de le demander.
pas de match ce week-end, mais donc 100% Rouge et Noir mercredi prochain après le journal de 19h. Et puis ensuite, ce sera le match à Bordeaux le dimanche soir à partir de 20h30 sur 100% en intégrale.
Bonsoir tout le monde.
Merci, bonsoir à tous.
Bonsoir. Merci.
L'émission 100% Rouge et Noir, c'est tous les mercredis à 19h. Sur 100%.